leur chant. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir en compagnie de Cees Notenboom. Cees Notenboom, vous êtes écrivain, poète, voyageur, auteur de très nombreux textes. Certains de ces textes nous sont parvenus que très récemment, même si vous les aviez publiés il y a fort longtemps. Il y en a tellement que je vais en citer que quelques-uns. Le chant de l'être et du paraître, le Bouddha derrière la palissade, le matelot sans lèvres, hôtel nomade. Les deux derniers s'intitulent « J'avais bien mille vies ». Et je n'en ai pris qu'une. C'est d'ailleurs un beau titre qui vous correspond bien, je crois, Cees Notenboom. Et Le visage de l'œil, qui sont des poèmes traduits du néerlandais. Avant d'essayer de comprendre combien de vies vous avez et combien d'identités vous possédez, j'aimerais bien savoir dans quelles conditions vous avez vécu votre enfance.
Ah, j'ai pas beaucoup de mémoire d'enfance, malheureusement. J'ai une théorie là-dessus, c'est que le 10 mai 40, il y avait un bombardement de l'aérodrome derrière notre maison, avec des avions de guerre allemandes, et mon père avait mis un fauteuil sur le balcon pour regarder tout ça, comme si c'était un spectacle de théâtre. Et moi, je tremblais. J'avais 6 ans ou 5 ans. Je tremblais. On a mis de l'eau froide au-dessus de moi. Et j'ai toujours eu l'impression que, avec cela, ma jeunesse a disparu. Mais c'est peut-être pas tellement vrai. Plus tard, quelqu'un du musée de la littérature m'a dit « Est-ce que vous êtes conscient que vos parents ont déménagé 8 fois entre votre naissance et le début de la guerre ?» Et ça, je ne savais pas. Et je suis allé à ma mère, j'ai dit « Maman, regarde, c'est ce qu'on me dit. Ah, c'est pas vrai. » J'ai dit « Mais j'ai une liste de toutes les adresses. » Finalement, elle a admis que c'était vrai. Et je crois que quand on fait ça avec un enfant, il y a beaucoup de choses qui disparaissent.
Donc la guerre, les bombardements. Et manifestement, même si vous parlez très peu de vous à l'intérieur de vos bouquins, manifestement, une enfance pas très heureuse avec des parents qui s'engueulaient beaucoup, non?
En tout cas, ils ont divorcé et mon père a disparu. Il est mort, d'ailleurs, dans un bombardement en février 45. Or, c'est là, je préfère que ça soit pas trop tragique parce que je l'ai quand même digéré tout ça.
Ouais, mais ça s'entend dans la plupart de vos livres. Vous êtes un enfant de la guerre.
Ah, peut-être, oui.
Et vous croyez encore à l'Europe.
Ah oui, justement pour cela, c'est la seule solution, mais en danger momentanément.
Vous avez été élevé donc par votre mère dans des conditions matérielles qui n'étaient pas faciles. Est-ce qu'il y avait des livres au domicile familial?
Non, pas tellement, non. Non. Dans ce sens-là, j'ai peut-être tout inventé, moi. Et surtout, ma mère, en 48, elle a marié un monsieur très catholique et ils m'ont mis à des écoles monastères, type gymnase. En Hollande, ça veut dire grec et latin et 3 langues modernes et le reste. Mais les moines, tandis que moi, je me sentais très bien là, finalement, peu d'ordre. Et surtout, après, j'ai compris combien ça m'a valu dans le sens... J'aurais pu écrire un livre comme l'histoire suivante, comme protagoniste un professeur de grec classique, j'aurais jamais pu écrire beaucoup de ma poésie sans cet fondament de Homère, Virgile et tout cela. Eh oui, mais les moines n'ont pas vu ça de la même manière. Ils m'ont toujours mis dehors. Et ça, je crois...
Pourquoi ? Parce que vous étiez
mauvais élève ? Pour la même raison. Parce que les autres garçons dans ces écoles étaient des garçons, des familles bien organisées, catholiques, etc. Tandis que moi, je venais d'une maison divorcée, enfin, avec tout cela que ça donne. Et à ce moment-là, on est dehors. Et maintenant, je suis très heureux, mais... À ce moment-là, on était quand même un peu malheureux à ces écoles. Je n'ai pas participé. C'était des gens des autres systèmes de famille. Et finalement, après 3-4 écoles, je me suis sauvé à 17 ans. J'ai commencé à travailler.
Et vivre. En faisant quoi ?
Travail stupide, de bureau quelque part, et après une banque. Quand on me demande maintenant, je dis que j'étais banquier, mais
j'étais... Bah, employé de banque, hein, il y a d'autres écrivains, comme Franz Kafka, qui ont légitimé le poste.
Il était quand même chez une compagnie d'assurance, mais par exemple, Eliot était banquier pendant une certaine période. Non, ça va. Et le plus grand poète, pour moi, américain, Wallace Stevens, était quand même aussi dans une compagnie d'assurance.
Vous avez hésité à ne pas retourner, je crois, au monastère. À un moment, ça vous a tenté de devenir moine ?
Oui, parce que je crois quand même que ça tient à faire avec l'égarement qu'on a vécu. Alors, j'étais là, dans un monastère trappiste, et j'ai vu cette vie extrême. Et j'ai peut-être un côté un peu extrême dans mon caractère. J'ai pensé, là, c'est vraiment des gens qui vont le plus loin que possible, qui sont là, parce que dans les règles des thérapistes, c'est qu'on reste là pour toujours. Tandis que moi, j'ai bougé toute ma vie. Et je crois que l'abbé, je me suis présenté, j'ai dit, père, je voudrais rester ici, je voudrais rester avec vous. Et il le doit... avoir vu à travers moi dans une seconde, mais c'était un homme sage. Il a dit, oui, bien sûr, je vous donne une cellule, et je vous donne de quoi écrire, et un vie de saint Abelard en latin que vous traduirez, et puis dictionnaire, et allez-en. Et après quelques jours, j'ai compris que c'était pas pour moi, mais il restait toujours quelque chose... Et je viens de raconter maintenant parce que j'avais montré mon montre Radio France Culture parce que j'ai fait un voyage avec le philosophe allemand Safranski. On est effectivement arrêté dans un monastère trappiste et on nous a fait entrer dans la bibliothèque. J'ai dit au moine, vous savez monsieur, ce monsieur qui est à côté de moi, c'est un philosophe allemand qui a écrit un livre sur Heidegger. Et le moine nous a regardé, elle a dit, Heidegger, c'est l'angoisse, nous sommes l'espérance.
Et pourtant, même s'ils incarnaient l'espérance, vous êtes parti du monastère.
Oui, oui, oui. Mais il est resté quelque chose. J'aime bien visiter les monastères. Parce que justement, ce qu'on ne peut pas faire, c'est tenter, qu'est-ce que l'on dit, verleiding.
Oui, les tenter, les séduire.
Oui. La séduction. Une séduction, c'est ça ce que je cherchais, oui.
En même temps, on a l'impression, vu votre parcours et votre entrée en littérature il y a quelques décennies, Cees Notenboom, que vous êtes vraiment très attiré par l'horizon, et notamment l'horizon maritime. Donc, l'enfermement dans un monastère, peut-être ne correspondait pas à votre nature profonde.
Non, et je crois que cet abbé l'a vu immédiatement sans que je le sache moi. Et bien sûr, il faut des gens comme ça dans la vie.
Et pourtant, est-ce que, puisque vous êtes un grand voyageur, on va y revenir tout au long de cette émission, est-ce que de temps en temps, puisque maintenant vous savez que les hôtels c'est plus chic du tout, il vaut mieux aller passer ses vacances dans des monastères, c'est beaucoup plus branché. Donc est-ce que vous allez, vous qui parcourez le monde, est-ce que de temps en temps vous allez vous enfermer dans un monastère ?
Non, je ne l'ai pas fait, mais je les visite de temps en temps, et mon dernier livre avec ma femme qui est photographe, est-ce qu'on a fait le parcours de pèlerinage, si on veut, datant de l'année 1000 dans une certaine partie du Japon. Ça s'appelle le Saigoku. On trouve déjà ce parcours dans le roman de Murasaki Shikibu, le Didi Genji. Et je voulais faire, parce que ce sont 33 monastères bouddhistes, et pas pour des raisons religieuses, mais simplement pour cette sorte d'être hors de tout pendant une certaine période. Et on marche, et beaucoup de ces monastères sont très très élevés, ils sont avec beaucoup de marches, et beaucoup de voyages, et c'est compliqué, mais c'est formidable.
Alors, quand vous étiez très jeune, alors que vous n'étiez pas destiné à être un écrivain, vous avez pris un jour un bateau par amour.
Oui, ça c'est vrai, oui. J'étais amoureux d'une fille du Suriname, c'était une colonie à côté de Guyane française, sur l'Amérique latine, le côte est. Et il y avait un bateau qui allait là-bas, qui prendrait 3 semaines, un mois, et je me suis
engagé.
Donc Philippe Nob, votre traducteur est à vos côtés, oui, même si vous parlez un excellent français.
Oui, oui, mais de temps en temps, il y a un mot qui échappe, malheureusement, mais il est là. En tout cas, j'ai fait ce travail de matelot, oui, et je suis resté là pendant un mois. Et j'ai rencontré le père, parce que dans ce temps-là, il faudrait absolument demander la permission du père.
Mais cette jeune femme, vous l'avez rencontrée aux Pays-Bas?
Aux Pays-Bas, oui. Oui,
et
oui.
Donc, comme vous étiez très amoureux, elle vous a dit, il faut d'abord aller demander l'autorisation de ma main à mon père.
C'est surtout le père qui a dit ça. Il voulait me connaître. Et je dois dire que c'était un type formidable. Après, moi, on est allé partout, on a dansé, je ne sais pas quoi. C'était les tropiques, hein. C'est un pays extraordinaire, Suriname, qui n'est pas du tout connu. En tout cas, après un mois, il a dit, tu es un ami pour la vie, mais tu ne maries pas ma fille. Eh bien, alors elle s'est échappée des Pays-Bas à New York, et moi aussi, et on s'est marié sans la permission du père, qui, après tout, avait peut-être raison, parce que on est divorcés, mais on est encore des très bonnes amies. Elle vit à Édimbourg. Et moi, maintenant, j'ai passé la 80 quelques. Et on se voit et on s'écrit de temps en temps.
Donc, vous n'avez pas voulu être moine, même si vous en avez eu très envie, c'est Notebaum. Vous avez appris le métier de matelot, mais vous n'êtes pas resté matelot. Pourquoi?
Non. Là, parce que... Je l'étais simplement pour aller demander la permission. Et après, j'ai pris un autre bateau vers Miami, Cuba, je me rappelle, 58, temps de Castro. Mais non, non, non.
Mais vous saviez pas ce que vous alliez faire de votre vie. Et c'est grâce à l'expérience de ce premier amour que vous êtes, entre guillemets, entré en littérature.
Non, je crois pas que ça va comme ça. J'ai quand même, apparemment, il y a aucune chose sur laquelle les écrivains mentent plus que sur le genèse de leur existence. Et ils ont toujours des histoires. J'ai toujours voulu être écrivain. Je me rappelle pas. J'ai malheureusement, ou heureusement, je sais pas, une mauvaise mémoire. Je sais simplement qu'un jour, j'ai fait l'autostop en France. Je suis parti de la maison, j'ai dit à ma mère, je m'en vais. J'ai fait autostop, j'ai appris, parce que j'ai jamais fini l'école, j'ai appris le français des camionneurs et des gens qui m'ont amené. En ce temps-là, c'était un peu plus facile qu'aujourd'hui, je pense. Et puis, premier voyage en Provence, m'a donné apparemment l'idée de mon premier livre. Et un jour, je me suis assis comme ça dans la bibliothèque publique de l'endroit où on vivait en Hollande, et j'ai commencé. Simplement, que j'avais fini le premier chapitre, je l'ai donné à un écrivain connu, que je connaissais pas d'ailleurs, et je lui ai donné ça, et j'ai dit, est-ce que ça vaut quelque chose? Il a donné à un éditeur. C'était deux dames d'une fameuse maison d'édition néerlandaise. Et les dames ont dit, si vous terminez ce livre-là, On vous donnera 300 florins. Eh bien, c'est ce
ça veut dire l'équivalent aujourd'hui
Aujourd'hui, ça ne serait rien du tout. C'est même pas 150 euros, mais il y a quand même longtemps, c'était 54.
Alors, ce premier livre a eu un succès considérable.
En ce temps-là, oui.
Tellement énorme que du coup, vous êtes devenu écrivain sans le savoir et sans l'avoir véritablement voulu.
En tout cas, mon nom était sur un livre. Et ça veut dire, pour le monde, que vous êtes un écrivain. Et après, je ne savais pas quoi faire avec ça.
Et ça vous a gêné, cette célébrité soudaine?
Oh, vous savez, la Hollande, c'est un pays assez sobre. Célébrité, là, ne veut pas dire... Et ça ne veut surtout pas dire ce que ça veut dire maintenant. On n'est pas dans la couverture d'un magasin ou des choses. Il n'y avait pas la best-seller list. Il n'y avait pas cette explosion de célébrité qu'il a maintenant pour certains écrivains qui, depuis, disparaissent.
Et en même temps, vous ne vous êtes pas reconnu dans cette célébrité. Ce n'est pas parce qu'on vous reconnaissait comme écrivain que vous l'étiez devenu à vos propres yeux. Parce que vous avez fui cette célébrité et ce destin.
De certaines façons, oui. Je crois que j'ai compris que je n'avais pas assez connaissance du monde pour écrire. Et qu'il faudrait vivre un peu. Et j'ai essayé de raconter mon histoire de matelot dans Le matelot sans lèvres. Des histoires, disons, aventuriers, histoires de mer. Et puis, j'ai écrit un roman difficile, un peu pathétique aussi, sur un écrivain qui se suicide, mais qui laisse son manuscrit à un autre écrivain qui finalement ne peut pas le finir. Mais ça m'a donné quand même la possibilité de penser un peu ce que c'est écrire. Et puis, j'ai arrêté la fiction. Et j'ai voyagé pendant 17 ans dans le monde. Et j'ai écrit, parce que c'est une forme d'une profession, j'ai écrit sur mes voyages, mais sans fiction. Jusqu'au moment où je pensais que maintenant je peux. Et c'était une attente difficile. 17 ans quand vos amis publient des livres partout et ont du succès. Et que j'ai su, il faut attendre. Mais on ne peut pas attendre et ne rien faire. Il faut attendre et faire des choses. Et là, je pense que j'ai commencé à apprendre le métier en écrivant pour des revues, pour des journaux, des histoires de voyage, mais du Japon, de l'Amérique du Sud, de à peu près tout. Et puis, le roman Rituel est venu et ici, l'admirable Alain Ullmann de Kalman Levy l'a pris.
C'était donc l'éditeur de Kalman Levy qui vous a fait confiance et vous a publié en français.
Il y a autre chose. Malheureusement, c'est comme ça. Un français, un éditeur français, ne lit pas un livre néerlandais. Mais il y avait eu un développement aux Pays-Bas. Mobil Oil, le grand, comment dit-on, multinational, avait un projet de promouvoir un peu la petite littérature, comme ils disaient. Ils sont venus à l'Union des écrivains néerlandais, ils ont dit on veut institutionnaliser un prix, et puis le prix ce sera la traduction de ce que vous jugez le meilleur livre de maintenant. Et eux, ils ont dit, c'était ces temps-là, Vietnam, etc., on ne veut rien à voir à faire avec un multinational américain. Bien. Et ces gens-là sont venus chez un monsieur qui travaillait un certain bureau pour la promotion de la littérature néerlandaise. Ils sont venus chez lui. On a nommé un jury. On a choisi mon livre, Rituel. Et puis, on a eu la traduction. Et le livre a paru aux États-Unis. Et à ce moment-là, les Français, les Espagnols, les Allemands pouvaient lire les livres parce que personne ne lit de néerlandais, sauf Philippe Noble.
Voici ce que vous écrivez dans un livre de poèmes qui vient juste de sortir, un poème qui s'intitule « Riches heures ». Il n'y a pas de suite dans mes idées. Quand j'ai fini la cathédrale, je compose la symphonie. Ensuite, j'apprends et je torture. J'envoie les régiments et je conçois le pont. En chinois, j'écris aussi et j'assèche le marais. Puis je danse le tango, je rassemble la flotte. Je peins la pomme de mille façons, mais si souvent que je dorme avec toi, le temps demeure invisible. Il est ou il n'est pas. À présent, je mange, je trouve à boire et à manger en moi. Cela ne fait pas moins, mais plus, à anéantir ou à périr. On voit bien, à travers ce court poème, Sess Notebaum, que finalement, c'est au cours de votre existence, assez tardivement, que vous avez compris ce que ça voulait dire écrire.
Oui, c'est ça. Oui. Et ce qui arrive maintenant, il y a 40 ans plus tard...
C'est dingue quand même, y compris en France, parce que la réception de votre œuvre en France est assez accidentelle, assez chaotique et très récente.
Oui, mais quand même, il faut dire que dès le début, Actes Sud a été fidèle à mes efforts. Ils ont finalement publié plus de 25 livres et on s'est resté mutuellement fidèles. J'ai eu plus de succès en Allemagne, il faut le dire, c'est comme ça, parce que ça arrive quand même que certains pays vous adoptent, mais j'ai aussi des livres en espagnol et en italien. Je peux pas me plaindre. Et je suis peut-être un écrivain des minorités. Ça, c'est autre chose.
Nous allons écouter la voix de Vladimir Nabokov, un auteur, je crois, que vous aimez infiniment. C'était au micro de Bernard Pivot. Il va parler de sa langue préférée. C'est une archive INA du 30 mai 1975.
La langue de mes aïeux est encore celle où je me sens parfaitement chez moi. Mais je ne regretterai jamais ma métamorphose américaine. Le français, ou plutôt mon français, qui est quelque chose de très spécial, ne se plie pas si bien au supplice de mon imagination. Sa syntaxe me défend certaines libertés que je prends naturellement avec les deux autres langues. Il va de soi que j'adore le russe, mais l'anglais le surpasse comme instrument de travail.
Ah oui ?
Il le surpasse en richesse, en richesse de nuances, en prose délirante et en précision politique. À 3 ans, je parlais l'anglais mieux que le russe, et d'autre part, il y a eu une période entre l'âge de 10 et 20 ans, pendant laquelle, quoique lisant une foule prodigieuse d'auteurs anglais, Wells, Kipling, Shakespeare, le magazine The Boy's Own Paper, pour ne citer que quelques cimes, je ne parlais l'anglais que rarement. J'avais appris le français à 6 ans. On commença par le Cid et les Misérables. Mais les vrais trésors m'attendaient dans la bibliothèque de mon père. À 12 ans déjà, je connaissais tous les poètes bénis de la France. Souvenir, souvenir, que me veux-tu? L'automne faisait voler la griffe à travers l'air atone. Et le bois jaunissant où la bise détonne. Et c'est curieux que à cet âge tendre, je comprenais déjà que Verlaine n'aurait pas dû employer une rime si incestueuse, à tonnes des tonnes, c'est la même racine, n'est-ce pas? Alors, voilà donc le calendrier de mes 3 langues.
Nous venons d'entendre la voix de Nabokov, et je crois que c'est un de vos auteurs préférés, Sess Notebaum.
Absolument, et quand je l'entends en faisant ça, j'avais pas une bibliothèque chez mon père, etc., mais quand même les pères franciscains, et je me rappelle qu'ils m'ont fait aussi apprendre « Rien ne nous rend si grand qu'un grand poète, mais pour en être atteint, ne crois pas au poète que ta voix ici-bas doive rester muette. » Ça, Lamartine, un peu plus tard dans la vie, malheureusement pas à 3 ans, ni à 10 ans, mais 14, 5, 15, 16 ans, oui. Non, Proust, Nabokov, ils ont ce trésor de la jeunesse, et aussi, il faut dire, de la jeunesse aisée, parce que c'était une vie... Dans ce sens-là, non, j'ai pas eu la chance, mais quand même, quand on doit conquérir tout vous-même, sans, disons, éducation large, sans université, en voyageant, en apprenant des idiomes dans la rue, comme j'ai quand même appris le français presque. Là, je crois que ça va.
Alors, votre œuvre s'étend sur plus de 60 ans. Elle est traduite dans de très nombreuses langues. Elle comporte plusieurs genres. Il y a le genre poétique, il y a le genre méditation, il y a le genre voyage, il y a le genre fiction, il y a le genre méditation philosophique aussi, qui est très important à l'intérieur de votre œuvre, Cesse Notebaum. Et puis, il y a ce trou dans votre bibliographie. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai décidé que j'allais partir parce que finalement, ce succès qui m'était tombé dessus, je le méritais peut-être pas. Et vous êtes parti avec des livres, vous êtes parti avec Virgile à l'autre bout du monde.
En effet, effectivement, maintenant je suis en voyage quand même et j'ai Virgile avec moi, mais dans le dans une fabuleuse traduction de Seamus Heaney, le Nobel irlandais, parce que j'avais lu il y a deux semaines qu'il avait traduit le livre 6, le sixième livre de Énéas, Énée de Virgile, une traduction absolument fantastique. Non, je voyage pas sans poésie, et surtout aussi de, disons, des classiques. Et la poésie, c'est pour moi une éducation permanente. Et je comprends pas les gens qui peuvent vivre sans cela.
Sans poésie, on ne peut pas vivre. Sans voyager, j'ai l'impression que vous ne pourriez pas vivre non plus. Je vais vous citer dans ce dernier texte qui vient d'être publié, qui s'intitule « J'avais bien 1000 vies et je n'en ai pris qu'une ». Pourquoi voyager? Voilà comment vous expliquez les choses. Comment arrivent les choses? Un beau jour, il y a longtemps, et je sais bien que cela paraît romantique et vieux jeu, mais dans ma vie, c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai bouclé un sac à dos, pris congé de ma mère et le train pour Breda. Et une heure après, à la frontière belge, je me suis posté au bord de la route en levant le pouce. Et à vrai dire, je n'ai plus jamais cessé. À ce moment-là, toute pensée méditative, toute prétention métaphysique était bien éloignée de moi. Ces idées-là vous viennent plus tard. C'est comme le moulin à prière des Tibétains, le mouvement précède la pensée. En d'autres termes, je n'ai plus jamais cessé de bouger, et peu à peu, je me suis mise à penser en bougeant, et si l'on veut, on peut appeler cela de la méditation.
C'est vrai, et aussi je dis, pas dans cette pièce-là, mais que les chambres d'hôtel du voyageur, ce sont les cellules de moine, de temps en temps. On y est seul, et on peut écrire, et on peut penser.
Mais qu'est-ce qui vous fait penser dans le déplacement de vous-même? Vous qui avez parcouru le monde et qui avez été dans des civilisations très différentes, comme par exemple, prenons l'Iran et le Japon, par exemple.
Oui.
Sans parler de l'Espagne où vous vivez la moitié du temps.
Oui, mais on médite les choses vues, ce qu'on a vu. Et si on voit beaucoup, il y a beaucoup de choses pour penser. Et puis j'écris là-dessus et viennent des pensées, viennent des... Et de temps en temps, ça vient en fiction, et de temps en temps en méditation. Par exemple, j'ai un livre qu'on a publié ici il y a 2 ans. J'avais soudain l'inspiration, j'avais fini un livre, et j'étais à Munich, et j'ai acheté un livre de Sándor Márai, pas une fiction, mais des pensées, des pièces courtes. Et je me dis, il y a longtemps que j'ai écrit des pièces courtes, pourquoi ne pas revenir sur... Et je me suis mis sur une terrasse, c'était février, très froid, et il y avait des gens qui buvaient un verre de champagne ou quoi. Et j'ai commandé un verre de champagne parce que j'avais quand même une idée. Et à ce moment-là, j'ai vu que j'étais assis sur un restaurant qui s'appelle Poséidon, le dieu grec de la mer. Et comme vous le savez, peut-être je vis partiellement sur une île méditerranéenne, Menorca, et je suis entouré par la mer et entouré par Poséidon, à mon avis. Et j'ai commencé d'écrire des lettres à Poséidon, sachant que le dieu de la mer ne me répondrait pas, parce qu'il n'a jamais répondu, mais j'ai quand même écrit, je crois, 77 ou quelques lettres. Et... c'est devenu un livre.
C'est devenu un livre qui s'intitule « Lettre à Poséidon » et qui a été publié, comme le reste de votre œuvre, aux éditions donc Actes Sud. Voici un court chapitre d'une de ces lettres, celui qui s'intitule « Camion ». Et qui manifestement est peut-être aussi caractéristique de votre matière d'écriture, de votre fabrique d'écriture, Cesse Notebaum. Parce que tout vous intéresse, c'est peut-être aussi pour ça que vous voyagez, parce que vous regardez tout et que rien ne vous est indifférent. Évidemment, la couleur d'un ciel, la beauté de la lumière qui tombe sur la mer, évidemment, ça, on regarde tous ça. Mais vous, vous regardez les choses apparemment les plus banales. Voici, je vous cite, camion. Une photo dans le Times, un camion. Il est garé le long de la route sous un petit groupe d'arbres. On le dépasserait en pensant, tiens, un camion, ou même sans rien penser du tout. Gros, massif, il faut des hommes forts pour conduire ces camions-là. Le chauffeur est parti de chez lui à 3h du matin, les chauffeurs font de longues journées. Sa belle-fille, âgée de 9 ans, était avec lui. La mère devait dire plus tard qu'elle n'avait aucune raison de ne pas laisser la petite accompagner son mari. Comme le camion restait garé assez longtemps à cet endroit, quelqu'un est allé jeter un coup d'œil. La fillette était étendue dans la cabine, morte, assassinée. L'homme était introuvable. On passa les alentours au peigne fin. J'arrête là. Mais tout est comme ça dans votre écriture, entre mystère et séduction, entre suspense et réalité, apparemment la plus banale.
Peut-être, oui. Vous savez, quand on a écrit, on est quand même poursuivi plus tard par des gens qui ont lu ce que vous avez écrit et on présente ça à vous. Et de temps en temps, c'est comme presque, c'est surtout pas ce que vous voulez faire, mais ça a l'air d'une accusation. Et à ce moment-là, quand, par exemple, j'ai une conférence quelque part et on m'introduit et on dit ce que j'ai fait, j'ai toujours une sorte de tentation de dire...
C'est pas moi.
Non, autrement. Non, j'ai dit, surtout en Allemagne, je cite la fameuse phrase, dernière phrase, qu'ont eu les condamnés de Nuremberg. Quand on a lu l'accusation, ils ont tous dit, dans le sens de l'accusation, pas coupable. Alors, j'ai l'impression de temps en temps que dans le sens de l'accusation, je ne suis pas coupable. J'ai vu cette camion, j'ai eu cette pensée, et vous n'avez pas voulu, peut-être pour des raisons que je ne vois pas immédiatement, mais de ne pas raconter la fin de l'histoire, c'est qu'on a trouvé l'homme qui s'est pendu. Et là, ça me frappe, parce qu'un tout petit drame dont personne n'a été témoin, et que quand même on lit dans le journal... Et on se pense que c'est secret entre êtres humains. Qu'est-ce qui se passe entre eux? Qu'est-ce qui s'est passé là? Et j'ai dit, je crois, à la fin, c'est peut-être une histoire d'amour impensable dont on ne peut pas juger.
Vous aimez beaucoup aussi prendre l'écriture comme arme de possibilité de restitution du passé. Vous aimez bien essayer de savoir ce qui s'est passé et qui ne nous est pas dit. Notamment, par exemple, l'histoire récente, par exemple en 2011, dans votre propre pays, aux Pays-Bas, on va retrouver une épave qui a été coulée en 1941 au large de Bornéo, et vous en faites une nouvelle. Donc, dans votre écriture, aussi la possibilité de restituer la totalité du monde.
Oui, mais il y avait un moment dans cette histoire, j'ai lu ça, il y a une photo...
Tout est matière à écriture pour vous.
Oui, absolument. Mais ce qui m'a frappé à ce moment-là, il y avait un officier avec ce sous-marine qui avait disparu avec tous les corps de la tripulation. Et on a trouvé finalement l'épave, comme vous dites, non ? Et on a donné cette nouvelle... Et j'ai su que la fille de cet homme, maintenant une vieille dame, l'homme avait disparu pendant 50 ans ou plus, qu'elle est allée à la photo de son père pour lui raconter ça. Ça, pour moi, c'est aussi une forme d'écriture qui m'a touché et c'est pour cela que j'ai écrit cette histoire.
Alors, dans de vos très nombreux bouquins, Cess Notebaum, il y a aussi beaucoup... d'écriture journalistique. Vous êtes un très grand journaliste. Vous avez couvert des éléments quelquefois que vous n'aviez pas imaginé pouvoir couvrir. Mm-hmm. Vous étiez là par hasard dans des endroits où se sont passées des révolutions. Nous allons écouter un document. C'était Interactualité. C'était le journal de Patrice Bertin, archives INA, 13 novembre 1989.
En deux mots, les dernières nouvelles de Berlin qui tombent les unes après les autres à un rythme affolant. l'Allemagne de l'Est promet officiellement des élections libres, démocratiques, universelles et secrètes. La RDA fait savoir que l'ouverture de ses frontières est désormais une réalité permanente. Encore plus spectaculaire, le mur commence à être détruit au bulldozer. 18 points de passage vont être creusés dans les heures, les minutes qui viennent. Laurence Simon.
À Berlin-Est, on se précipite dans la rue pour savoir où les Vaupeaux vont commencer à détruire le mur qu'ils avaient édifié en 1961. Comme la télévision n'a toujours pas officiellement annoncé la nouvelle, c'est par la radio ouest-allemande que l'on a appris la nouvelle incroyable. On ne peut pas multiplier à l'infini les superlatifs. On sait que dans une heure, les quatre premiers trous seront percés dans le mur. Ils devraient être au nombre de 18, 18 points de passage pour faciliter le voyage aller-retour ou l'exode des Allemands de l'Est qui, depuis très exactement 24 heures seulement, peuvent voyager librement. Le mur est tombé, c'est ce que scandaient ceux qui partaient cette nuit pour Berlin-Ouest. C'était symbolique, aujourd'hui c'est concret. À Berlin-Est, Laurent Simon, France Inter.
Alors vous avez dans les mains, Cees Notebaum, votre propre ouvrage. Ce livre s'intitule « Une année allemande ».
Oui.
Et là, grâce à vous, on comprend la chair de l'histoire.
Oui, j'espère, mais pour moi, il y avait... Ce qui m'intéresse surtout, c'est le rime dans l'histoire. Parce que en 1956, j'étais à Budapest. Et là, j'ai vu comment les Russes ont fermé ce pays. Et je me rappelle toujours qu'une fille est venue vers moi et qui m'a dit « Quand est-ce que vous venez, vous, dans ce sens-là, le Ouest, quand est-ce que vous venez nous aider ?» Et j'ai su « Non ». Et j'ai senti une trahison assez horrible. Et puis j'ai vu que ce système est resté en Hongrie et en Allemagne de l'Est surtout aussi pendant plus de 30 ans. Et d'être là au moment que le mur tombe, c'était quand même une sorte d'étrange justification. Mais un mois avant cela, j'ai vu que Gorbatchev est venu, il a rencontré Honecker. Et ils se sont
embrassés.
Ce baiser, il est là dans le livre. Parce qu'on pouvait voir que c'était pas une trahison, c'était pas un baiser de Judas, c'était quand même la fin de l'un. Et j'ai écrit ce moment-là, le même jour. J'ai dit, c'est la fin de l'un et peut-être aussi de l'autre. Et je crois que là, il y a une certaine vérité aussi. Parce qu'avec ça, après ça, Gorbatchev a aussi disparu dans quelques années. C'était fini.
Vous avez parlé de votre sentiment européen. Vous y avez consacré des livres, Cees Notebaum. Aujourd'hui, on voit bien que l'Europe est très malmenée. Que l'histoire des réfugiés la met en difficulté. On voit bien la montée des extrémismes dans certains pays européens. On voit bien qu'après avoir pris fait et cause pour les réfugiés, Angela Merkel s'est résolue à adopter une autre attitude. On voit avec consternation les histoires d'échanges de réfugiés entre la Turquie et l'Allemagne.
Oui.
Quel espoir conservez-vous dans cette Europe aujourd'hui si déchirée ?
Vous savez, quand on a lu Spinoza, je ne vais pas être pontifical, mais il y a un aspect de Spinoza qui dit qu'il faut regarder les choses sub specie aeternitatis. C'est très difficile, momentanément, on ne peut pas. Mais je pense vraiment qu'on a fait des grandes fautes en construisant l'Europe et qu'on doit tout refaire. Mais ça ne va pas être maintenant. Il y avait Robert Schuman, il y avait Monet, il y avait en Italie, de Gaspari, je crois. En tout cas, il faut refaire, mais ça, maintenant, c'est pas possible. C'est pas possible. Apparemment, ça ne marche pas. Et dans le livre qui va sortir, j'ai une petite illustration du fait, mais c'est peut-être trop compliqué. J'étais en train de faire un livre sur Hieronymus Bosch, parce que les grandes expositions sont là. Et au moment que j'ai visité de divers musées avec les peintures de Bosch, j'ai vu en restauration le Saint-Christophe. C'est le géant qui prend un petit enfant d'un rivage de la rivière, et il l'apporte à l'autre. L'enfant, de plus en plus lourd, presque il ne peut pas arriver à l'autre côté. Et j'ai vu... En même moment que j'étais en train d'écrire là-dessus, il y avait le Times de Londres et El País, le journal espagnol, et il y avait cette photo maintenant fameuse du soldat turc avec le petit enfant. Et là, j'ai écrit dans trois lignes, et c'est une forme rhétorique, c'est pas exactement ce que j'ai dit, le pauvre soldat, parce qu'il a exactement la même attitude que le saint, un peu courbé, un peu, et il regarde à droite comme le saint. Et là, vous, où vous êtes, vous. Et on voit cette attitude et on voit un deuil énorme. Et comme j'ai dit en espagnol, c'est la bancarrota, la faillite de cette politique, qui est complètement faillite. Pour des raisons énormes partout, ce que vous voulez dire. Merkel a fait quand même, je pense, son mieux, mais elle a été stoppée. Et les Hongrois, les mêmes Hongrois qui ont été réfugiés chez nous il y a 31, 40 d'années, ils ne veulent pas participer. Ce pays de l'Est qui voulait tellement être membre pour des gains clairs ne veulent pas. Eh bien, le total est, et ici il y a Le Pen et chez nous il y a Wilders et en Allemagne il y a l'Alternative, etc. Ce sera extrêmement difficile, mais je continue d'y croire parce que je crois que c'est, dans le sens de Spinoza, inévitable. Je ne crois pas à la logique des marxistes, des choses qui ne sont pas, qu'on ne peut pas éviter, non. Mais je crois que vraiment que, j'ai voyagé tant en Asie, j'ai vu le pouvoir qui naît là. Il faut quand même que ce soit, qu'on peut se défendre, disons. Et 28 petits pays, parce qu'aussi la France n'est pas un grand pays, nous avons appris notre leçon d'avoir été un pouvoir colonial, c'était quand même. Et la France est visiblement plus grand comme l'Angleterre, mais seul, aucun de ces pays peut maintenir l'équilibre du monde.
Ben, merci beaucoup, Cesse Notebaum. On n'a pas abordé le quart du dixième du centième de votre œuvre. En exergue de cette fin d'émission, je citerai la citation que vous donnez à la fin de votre ouvrage « Autoportrait d'un autre », parce qu'elle vous définit bien. Elle est de Frédéric Schlegel, qui dit « J'ai voulu montrer que les mots s'entendent souvent mieux eux-mêmes que ceux qui les emploient. » Merci beaucoup, Cesse Notebaum. Je rappelle, et merci à Philippe Nob qui nous a accompagnés tout au long de cette émission et qui est le traducteur de tous les livres de Cesse Notebaum, qui sont donc publiés aux éditions Actes Sud. Les derniers s'intitulent « J'avais bien mille vies et je n'en ai pris qu'une ». Il y a aussi « Lettre à Poséidon »,« Le visage de l'œil » et bien d'autres que vous trouverez dans la bibliographie Internet. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, merci à Samuel Bernard, Corinne Amar, Élodie Royer, Véronique Villa et Jean-Richard Dufour. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.